rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre Énervé, le Énervé qui fait coup double chaque soir, 18h on ouvre en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, et puis 22h minuit, on est comme tout le monde, et bien à l'antenne. Ce soir c'est 50-50 avec Franck Dubosc qui crise la cinquantaine sur scène, demain il se pose au Palais des Sports à Paris jusqu'au 14 avril. En pleine forme, Franck Dubosc, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Édouard Saint-Aubin qui ne connaît pas le Brexit. Hein. Deux actualités, la série avec son héros Patrick Melrose a débarqué hier sur Canal+, et il signe Ben Barr et ses filles une nouvelle comédie de mœurs acide et hilarante pour un auteur. Finaliste du Booker Prize en 2006, prix féminin en 2007, une exception culturelle anglaise. Édouard Saint-Aubin, bonsoir.
Bonsoir.
Algorithme pour Marion Guilbeault.
Un algo disco qui vire rebetiko, ça va être celui de Franck Dubosc.
Et dans le Énervé la suite, Rwanda, génocide des Tutsis, 25 ans plus tard, la France est-elle coupable?
C'est moins drôle. Ouais. Oui, je sais bien, mais enfin, on fait ce qu'on peut, Laurent, et là, on a voulu épouser effectivement l'actualité. Moi, j'avais pensé, génocide rwandais, la France est-elle complice? Soyez plus nuancé. Ou alors, Rwanda et la France dans tout ça, plus léger. Enfin bon, bref, on a le choix. Donc, outre vous et moi, il y aura Hélène Dumas, qui est historienne, spécialiste du génocide rwandais. Ça tombe très bien. Guillaume Ancel, lui, est un ancien militaire. Il était là-bas. Et il a publié en 2018 Rwanda, la fin du silence. Laurent Larcher, lui, il est reporter de guerre. Il vient de sortir un gros livre très épais qu'on a lu. Vous avez vu que c'était... On a eu du mal.
C'est très complexe. Hein.
Rwanda, il parle. Témoignage pour l'histoire. Et puis enfin, Charles Abonimana, militant rwandais des droits de l'homme et auteur de Moi, le dernier Tutsi, car il est Tutsi. Et Isabelle Weckstein, avocate.
Et bien, parfait. Tout le monde sera là. Donc pour la deuxième partie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Générique.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Et donc cette comédie ce soir au programme avec vous deux, Franck Dubosc et Édouard Saint-Aubin. Vous vous connaissez l'un l'autre ?
Non.
Non. Alors je vais vous donner des pistes. Édouard Saint-Aubin, vous qui êtes anglais, si je vous dis Coronation Street, est-ce que ça vous parle ?
Coronation Street.
Ah, Coronation Street. Oui, ça me parle. Oui, beaucoup.
Franck Dubosc était le French Lover. Ah. Ah, mais oui, ça y est, quelque chose
vieux,
de là.
C'est vieux, tout ça. J'avais 27 ans. Ouais. Ouais, j'en ai 55, donc il faut faire le compte. Voilà.
Ouais, on va faire la soustraction, ouais.
Félicitations.
vous suivez la série, vous regardez de temps en temps?
Pas,
ça continue toujours, non?
Religieusement, mais ouais. Je l'ai vu, bien sûr. Tout le monde en Angleterre l'a vu, ouais.
Pendant combien de temps ça a duré pour vous, Franck Dubosc, là-bas?
Moi, j'ai fait une saison. Ouais. J'ai fait une seule saison. Je suis arrivé dans c'était la 29e saison de Coronation Street, qui existe encore aujourd'hui.
Oui, c'est comme Plus belle la vie, mais c'est un truc dément.
Oui, c'était très... j'ai fait une saison. Oui, il y avait 22 millions de téléspectateurs en Angleterre par soir. Maintenant, je ne sais plus aujourd'hui combien ça fait, mais c'est un truc, effectivement, on débarque dans une institution anglaise, quoi. C'était le soap opéra, on va dire, du nord de l'Angleterre, qui était tourné à Manchester. Et il y avait le rival qui était celui qui était tourné, qui s'appelait EastEnders, qui était tourné, lui, à Londres. Donc il y avait le Nord et Londres, il y avait deux rivaux. Eux avaient fait venir, quand moi je suis arrivé dans la série, ils avaient fait venir un Italien.
De l'autre côté.
Oui, chacun essayait de trouver un truc un peu
pareil,
nouveau.
C'était un Italien lover, voilà. C'était le même.
Je sais pas, mais j'ai jamais vu.
Ah ben vous regardiez pas, bien sûr, la concurrence.
Non. C'est surtout que je la comprenais pas.
Ouais.
Mais non, si, je comprenais.
Il y avait vraiment un statut de star à cette époque-là. J'imagine que vous étiez très très populaire quand même.
C'était pas de star, non, mais ça amenait des facilités quand même. Ouais. C'était parce que c'était tellement vu. Que très vite, au bout d'un épisode, on est aussi vite oublié, mais au bout d'un épisode, je me souviens une fois en avion, la puissance du truc, c'est que je me souviens une fois j'allais louper mon avion, j'étais à Londres, à Manchester, pardon, à l'aéroport, et puis tout à coup, je me dis, allez, j'utilise mon passeport, mon passe-droit de Coronation Street, et je dis, je vais voir quelqu'un, I'm sorry, I'm from Coronation Street, I'm Patrice, I'm of Coronation Street, et je dis au mec, j'ai loupé mon avion, et là tout de suite, le mec prend une voiture et m'emmène en voiture jusqu'à l'avion, parce que j'étais Patrice de Coronation Street.
Quand même.
Et je me suis dit, quand même, ça marche pas mal, ça ouvre des portes, et puis c'est là, moi je rentrais après à Paris dans ma petite chambre de bonne de la rue de Rivoli et au 7e étage de 9 mètres carrés et
contraste devait être saisissant, hein.
C'était formidable, mais c'était le bon contraste parce que c'est ça qui m'apprenait à me dire que rien n'est jamais gagné et que dans mon pays c'était pas encore fait et ni même là-bas d'ailleurs, mais voilà, ça m'a appris qu'il y avait des hauts, des bas, toute la vie n'était pas faite que de satisfaction.
Vous aviez un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir
prétendre. Ouais. Oui, je parle anglais. Oui. Quand je suis arrivé, c'est difficile parce que c'est le nord de l'Angleterre, c'est un accent qui est très compliqué. Et je pensais parler l'anglais couramment. Et je me souviens de mon arrivée là-bas, avoir un mec qui s'approche de moi, qui fait How are you, Jack? Je suis désolé, je comprends pas. Il me demandait juste comment ça va. How are you? Mais c'est How are you, Jack? C'était une espèce de à côté d'un vrai anglais, je parais ridicule, mais c'était je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je me mette à l'anglais du nord de l'Angleterre, qui était encore un accent différent. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé en Angleterre.
Ouais. Vous êtes né dans quelle partie de l'Angleterre, Édouard Saint-Aubin?
Je suis né à Londres, mais nous habitions en Cornouailles. Alors je suis immédiatement.
Dans une famille très noble, un grand château.
Nous n'étions pas dans un château, mais j'ai des cousins qui sont dans le Mont-Saint-Michel anglais. Michael's Mount, oui.
Alors Franck Dubosc, puisqu'on parle de série pour vous présenter votre compagnon de studio ici, est-ce que Patrick Melrose, ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose. J'ai pas vu, mais oui, ça me dit quelque chose, oui.
Mais Patrick Melrose, c'est lui. Quoi? Enfin, c'est lui. C'est vous qui avez créé le personnage.
Flaubert a pu dire, Madame Bovary, c'est moi, je peux pas résister de dire que...
Ouais, c'est vous qui avez créé le personnage.
C'est moi. Oui, c'est un alter ego, c'est vrai, mais...
La série a débarqué lundi sur Canal+, ici en France.
Oui, hier soir.
Oui.
J'ai pas pu le voir. J'ai mis la télévision dans mon hôtel, mais il y avait pas de Canal+.
Tu n'as pas pu le voir, mais je l'ai écrit.
J'ai suffisamment écrit pour pouvoir pas besoin de le voir. On vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. On va parler tout à l'heure de One Man Show et du nouveau roman d'Edouard Saint-Aubin. Un son de radio concurrente. Merci pour vous.
Ben oui.
Mais c'est vrai que ça parle à tout le monde.
Mais c'est toute mon enfance, c'est-à-dire
RTL.
Que c'est RTL. C'est mon père était le matin, on prenait le petit déjeuner. J'ai cette image, il fait nuit dehors, on prend le petit déjeuner, il est très tôt. Moi, je vais aller à l'école, lui, il va aller au travail. Et on a chacun notre bol, nos tartines qu'on trempe dedans, et j'écoute tin 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 tin, et on écoute RTL. Enfin, il écoute RTL et moi, je subis la radio. Parce que c'était les nouvelles, et moi, je m'en foutais un petit peu à mon âge.
Vous avez été appelé par la valise? Il n'y avait pas la valise ou un truc dans ce genre-là?
Non, on n'a jamais été appelé par la valise. J'ai une anecdote sur la valise, c'est juste, j'habitais une chambre de bonne, et il y avait une dame âgée au bout du couloir, et puis cette dame, un jour, qui a compris que j'étais plus ou moins dans le métier, je commençais à faire un peu des choses, un jour, elle m'a mis dans mon enveloppe une liste des prix, enfin, des chiffres de la valise RTL sur une année. En me mettant un petit mot, si jamais vous connaissez, c'était Jean-Pierre Foucault, je crois, ou je sais plus qui. Fabrice, je sais plus qui animait là.
Jean-Pierre Foucault était sur.
Non, c'était
RMC.
Fabrice. Voilà, si jamais vous connaissez Fabrice, est-ce que vous pouvez glisser un petit mot qu'il m'appelle, parce que j'ai tous les chiffres depuis un an.
Et les chiffres de la valise.
Les chiffres de la valise, elle avait noté toutes les choses.
Parce qu'il fallait deviner quel était le montant de la valise.
Ils appelaient quelqu'un, allô, il y a combien? Et la personne disait le montant de la valise. Et si la personne donnait le montant de la valise, récoltait le montant de la valise. Et elle avait tous les montants depuis un an. Sûrement ceux d'avant, mais elle n'avait par précaution donné que ceux d'un an. Et hélas, j'ai pas pu aider cette dame. Voilà.
Un son beaucoup plus.
La valise est restée fermée.
Un son beaucoup plus naturel pour vous, Édouard Saint-Aubin.
Voilà.
Ben oui.
C'est les cigales. Et j'ai passé. Mes parents se sont déplacés quand j'avais 2 ans en Provence. Ils ont habité là. Alors c'est le bruit de fond de tous les étés de ma vie jusqu'à 2007, quand j'ai dû partir de la maison en Provence que nous habitions. Et aussi, c'était la bande sonore quand j'ai écrit mes premiers 6 romans, parce que j'ai fait ça en France. Et c'est en écrivant, c'est tout son devient un bruit. C'est une blessure sur la silence que je veux vraiment. Mais si on va avoir un bruit, c'est les cigales, c'est très bien. C'est beaucoup mieux que mon prochain son.
Ah oui, le prochain
sans
son.
Être un spoiler, il y a
un autre son. Oui.
Mais non, mais c'est vrai parce que moi j'ai écrit ce dernier spectacle que je joue, mon film Tout le monde debout et tout, je les ai écrits dans le sud avec effectivement le bruit des cigales derrière. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'avais le bruit des cigales parce qu'en entendant les cigales chanter là, je me dis mais oui, mais moi aussi, je me revois en train d'écrire ou de siroter un bon verre de menthe, mais
oui, c'est oui, bien sûr.
Oui. Je bon reste poli.
Un bon verre de menthe.
Oui, un verre de menthe.
Une chanson plus encore au sud pour vous.
Balla, balla, balla con lui, non me ne frega niente. Balla tutta la notte, balla per mille ore. Balla, balla, balla con lui, tu mi spezzi il cuore. Balla, balla, balla sempre, balla per mille ore.
Session karaoké pour Franck Dubosc.
Je la connais parce que je la chante dans mon film, dans Tout le monde debout. Ouais. C'est une chanson, je cherchais une chanson italienne, à droite, à gauche. Les droits étaient très chers sur celle que je choisissais. Et puis un jour, on m'a amené cette chanson, qui avait des droits beaucoup moins chers et que je trouvais qui représentait ce que je voulais montrer dans le film. C'était je voulais marquer dans le film ma mère est italienne. Et voilà. Et puis cette chanson, tout à coup, est restée. Je l'ai tellement entendue, écoutée. Au montage, au tournage, je l'ai apprise parce que je la chante dans le film. Et voilà, quand je l'entends maintenant, ça représente la saveur, la guimauve de mon film. Enfin, je sais pas pourquoi je dis la guimauve, mais ce goût qu'on
la
a.
Madeleine,
Ouais, moi, ma Madeleine, c'est de la guimauve.
C'est parfait. De la musique aussi pour vous, Édouard Saint-Aubin. Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend de la musique composée par Hauschka pour la série de télévision qui
Patrick Melrose.
Patrick Melrose. Et c'est le père de Patrick qui joue avant de tourmenter son fils. Pour moi, c'était un grand moment l'année dernière quand on a fait ce film parce que l'écriture est tellement solitaire de rentrer dans une collaboration avec 150 personnes. C'était complètement étrange pour moi. J'avais jamais travaillé avec d'autres personnes. Alors l'idée que quelqu'un allait faire créer de la musique pour quelque chose lié à un livre que j'avais écrit, c'était étonnant. C'est la même chose avec le comment on appelle props, le département des accessoires.
Des accessoires,
oui. Alors 5 mots sur une page comme l'urne funèbre de son père devient un objet, ou dans ce cas 2 objets, parce qu'il y en avait un en caoutchouc, puisque Patrick le lance contre les murs et les fenêtres, et il fallait que ça rebondisse. Alors c'était très intéressant de passer d'un médium à, on dit médium?
Oui, d'un
médium à un autre. Alors, cette musique me rappelle de ça. C'était très joyeux.
On va parler série, on va parler One Man Show, on va parler littérature dans quelques instants avec vous deux.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant, je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but. Au grand petit con,
quand je vois dans tes yeux d'enfant, je deviens con.
Je suis ce vieux gris, tout récité.
Oh non!
trésor de la grande illusion. À volonté, c'est l'or transformé en passion qui n'oublie pas la voix lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir et surtout n'oublie pas qu'en petit con c'est toi, qu'en petit con c'est moi, qu'en petit con c'est toi, qu'en petit con c'est moi.
Grand Petit Con, le nouveau titre de M dans le NRV avec un clip signé Michel Gondry, une programmation idiote de Jean-Baptiste Audibert.
Tu sais, à 50 ans, c'est quelque chose, hein. T'es un petit peu comme un yaourt en date limite. Moi, je les vois, les filles, hein. Et me regarde, celui-là, faut le bouffer ce soir, il est pourri demain.
Le nouveau rendez-vous.
Alors, j'ai décidé d'écrire un spectacle là-dessus, vous dire ce que j'avais appris, ce que je savais pas, l'amour, l'argent, les femmes, les choses de la vie, les enfants. Vous allez voir, c'est un spectacle, comment dirais-je, un peu trash. Sans tabou, sans filtre, messieurs, dames.
Laurent Goumard.
Vous verrez, hein, c'est un spectacle, je dirais, bien monté, il me ressemble.
Sur France Inter.
La classe, Franck Dubosc, pour ce spectacle jamais vulgaire, c'est ce que vous ajoutez juste après. On a coupé, bien sûr.
Tant que les enfants présents dans cette salle ne seront pas endormis.
Exactement, ça s'appelle 50-50, un one-man show qui dure. Ça a commencé en 2017, une tournée énorme. Là, vous vous posez au Palais des Sports à Paris à partir de demain jusqu'au 14 avril. C'est fini après? Vous en écrivez un autre?
Non. On devait s'arrêter. Enfin, après, on part à La Réunion et à l'île Maurice pour clore cette saison. Mais on devait s'arrêter, puis non, comme par chance, tant mieux. Les gens étaient là, donc on continue, on repart après, on refait... refait des villes qu'on a déjà faites, comme Lyon, Rennes, et puis on va dans de nouvelles villes qu'on n'a pas faites, Nancy, Brest, la Bretagne, on l'a pas beaucoup fait, donc on va le faire, l'Est, Nancy, et puis je sais plus, il y a plein d'autres villes, Bruxelles, on retourne encore là-bas, et la nouvelle tournée...
C'est dur, 2017, 2010, ouais, c'est à peu près...
Et puis ça s'arrêtera pas là, parce que tant que les gens viennent, moi j'aime ce nouveau spectacle, en plus j'avais pensé le jouer... peu, et puis, et en fait, il bouge tellement, je l'aime tellement que, donc, on va continuer. Puis, comme ça marche, tant mieux. Entre deux films, voilà. Ça ranime. Voilà.
C'est Dubosc en chemise et en veste. Les premiers One Man Show, d'ailleurs, vous étiez habillé comment?
Oh, très mal. J'étais habillé j'avais un pantalon noir, une chemise grise ample qui m'allait pas du tout, et des tennis Adidas, ceux que je porte là.
Comme celle-là. Ouais.
Et j'avais ça, j'étais très très mal, j'étais attifé, je sais pas, j'étais très mal habillé. Pourquoi? Et puis quand je reverrai comment je suis aujourd'hui, dans 10 ans, je redirai la même chose.
Ah bah non, quand même, il y a quelque chose qui se met en place avec
l'âge,
cette tenue.
C'est ça, vous n'allez pas dire avec l'âge.
Non,
avec l'âge. Oui, ça se met en place, disons que, voilà, avec l'âge et les moyens, surtout, on a les moyens d'acheter 4 chemises au lieu d'une seule. Non, on n'avait qu'une seule chemise, donc elle finissait par être élimée au bout d'un moment. Et je disais, mais la lavez pas tous les soirs, c'est pas grave, je vais pas transpirer. Ah, ça force à pas transpirer, hein. Ça c'est obligé. Bon, là maintenant on peut la laver tous les soirs.
La classe. Cinquième spectacle, hein, cinquième One Man Show. Le premier c'était à la fin des années 90. Qu'est-ce qui a changé dans le métier?
Peut-être on est plus nombreux.
Ah bah, vous êtes même. Non, bah, ouais. Vous êtes beaucoup plus nombreux.
On est beaucoup plus nombreux. C'est bien, c'est moins bien. Oui, on est beaucoup plus nombreux, mais on est beaucoup à être différents. Enfin, en tout cas, ceux qu'on connaît beaucoup, on est assez différents. Et puis, après, il y a les nouveaux, certains se ressemblent, certains...
Ouais, il y a même des modes, hein, il y a quelques temps. Enfin, par exemple, la jeune génération des filles sur scène, c'est la vie sexuelle tout le temps.
Oui,
et la masturbation, c'était il y a 2 ou 3 ans pour les mecs. Hein.
C'est ça, oui. Là, il y a beaucoup de filles, tant mieux. Tant mieux. Alors tant mieux et tant pis pour elles, parce que quand il y en a eu peu, c'était bien pour chacune d'entre elles, parce que c'était une nouveauté. On avait envie de les écouter. Là maintenant, il y en a beaucoup. Alors, elles sont pas toutes vulgaires. Il y en a très drôles sans être vulgaires.
Et puis il y en a qui sortent du lot, comme Blanche Gardin, par exemple, des gens comme ça.
Alors elle est extraordinaire. J'adore ça, j'adore. Et elle doit faire peur à toutes les autres, parce que elle est très très forte.
En plus, elle ne bouge pas.
Ouais.
Ça interdit quelque chose.
Ça coûte rien. Ça,
quand vous êtes arrivé, il y avait qui d'autre en fait?
Moi, quand je suis arrivé, il y avait quelle génération? Il y avait la génération d'avant qui commençait à pas abandonner, mais à en faire un peu moins. Il y avait les Pierre Palmade, Muriel Robin, tous ces gens-là qui étaient... Et puis Jean-Marie Bigard. Et puis nous, on est arrivés en même temps que moi. C'était Éric et Ramzy, Gad Elmaleh. Il y avait Gad Elmaleh, Éric et Ramzy. Élie et Dieudonné terminé, puisque moi, ma première scène, c'est en première partie d'Élie et Dieudonné. Donc je faisais première partie, donc c'était mes tout débuts. Et c'était leur dernière scène à eux. Il y avait donc Élie solo. Et puis voilà, c'est...
Jamel, Florence Foresti.
Et Florence, non, Florence, non, c'est après. C'est un tout petit peu après, quelques années après, Florence. Et puis voilà, mais c'est un peu toujours les mêmes sur les Zénith et sur les grosses salles. Hein. Ouais. C'est à part Kev Adams qui est arrivé, et puis alors, oui, ou Jeff Panaclock, ou d'autres styles. C'est-à-dire tout à coup, c'est les autres, les styles nouveaux, comme Jeff Panaclock, comme Cantlou à une époque. Tout à coup, de l'imitation. Il y avait Laurent Gérin qui était qui est toujours là.
Même ces limitations aujourd'hui, il y a quelque chose qui a un peu disparu de ces grandes salles.
Ouais, encore quatre. Oui, qui a un petit peu disparu. Mais Laurent, non, Laurent Jaurès.
Non, mais lui, oui, mais il y en a deux ou trois, mais c'est pas comme avant.
Ouais, parce qu'il y a peut-être aussi des modes, des envies. Nous, on est nombreux, les humoristes, donc il y a peut-être des envies du public de voir un petit peu autre chose. Il y a les Baudins, par exemple, qui font un gros succès, qui sont deux humoristes. Enfin, ils sont sur scène. Il y a des vaches, il y a des poules, il y a de l'humour, il y a tout ça. Ça amène aussi, ça draine un gros public aussi.
Quand vous avez commencé, quel genre de personnage vous vouliez imposer sur la scène? C'était quoi votre signature au départ?
Au départ, c'était l'espèce de faux playboy qui... Parce que moi, je croyais que les humoristes étaient... Avant, il y avait Coluche, il y avait Robert Lamoureux encore plus avant.
Oui, là, vraiment très avant.
Non, mais oui, mais ce sont des gens, moi, pour moi, c'était pas des gens qui jouaient sur le physique ni rien, enfin, sur leur physique de beau gosse ou quoi. Et moi, je suis arrivé avec mes yeux bleus, ma tête de jeune premier, trop beau pour faire les moches, trop moche pour faire les beaux, un petit peu comme ça, je ne savais pas où me placer, mais jeune premier malgré tout. Et je me suis dit, faut que je trouve un truc, faut que je me moque de moi. Et me moquer de moi, c'était faire le faux playboy, le faux dragueur à deux balles qui marche pas. Donc j'ai joué avec mon physique comme ça, en me moquant de moi bien sûr, sinon ça aurait été un petit peu... Et puis ça a marché, ça a plu peut-être parce qu'on a compris que je me moquais beaucoup de moi et que il y avait beaucoup de choses à faire. Surtout.
Et la crise de la cinquantaine, vous l'avez vécue?
Non, j'ai pas eu de crise. Non, il y a pas de crise.
Il y a pas de crise de cinquantaine.
Non, c'est il y a pas de crise de cinquantaine. C'est pas mes meilleures années. Je préfère les 40 ans, mais là, je me rassure. Moi, j'ai 55. Je me rassure en me disant que j'ai pas encore 60. Alors, je sais pas ce qui va se passer à 60, mais c'est non. Et puis, il m'a fallu du temps avant de la digérer, puisque j'ai, comme je dis, j'ai 55. Et là, je parle de mes 50 ans dans le spectacle. Et non, je l'ai. Vous savez, je suis un jeune papa, moi, je suis un papa de jeunes enfants.
Oui, vous en parlez dans le spectacle.
Donc, ouais, j'en parle, donc forcément, ça rajeunit, mine de rien, parce que des enfants, j'ai un enfant de 9, un autre de 6, et normalement, on a plus vers les 40 ans quand on a des enfants de cet âge-là, donc tout à coup, ça me rajeunit dans ce sens-là, pas parce que eux m'amènent des choses jeunes, juste parce que moi, faut avoir le souffle, aller jouer au football, aller jouer avec eux, c'est jouer à Netflix, Fortnite, à tous ces trucs-là, ça rajeunit. Donc voilà. Et puis je me suis marié tard. J'ai tout fait tard. Donc si j'ai tout fait tard et avant j'ai très fait tard.
J'en ai pas fait exprès.
Et donc voilà. Donc j'ai l'impression d'être jeune, mais c'est comme je le dis dans le spectacle. J'ai à 50 balais. On est vieux pour les jeunes, mais on est jeune pour les vieux. On peut être encore potache, puis être sur scène, jouer des rôles. Ça nous rend jeunes. Même moi, je m'écris mes propres rôles maintenant au cinéma. Je me dis, à quel âge je me mets? Je me mets à 48, 49.
Et alors?
Allez, dans le dernier, je me suis dit, j'allais avoir 50. J'en avais déjà 54 quand même. Et je me rajeunis, tout ça. Jouer, ça nous rajeunit. Je me teins les cheveux, mais on essaie de
vous teignez les cheveux?
Oui, pour les films, je suis obligé.
Ah oui, d'accord.
Là, je deviens
avec les cheveux jaunes.
Moi, ça me dérange pas. Alors, très honnêtement, je n'ai rien à faire de tout ça. Non, c'est pour c'est souvent un metteur en scène qui nous voit un peu plus jeune, un petit peu plus ceci, un petit peu plus cela. Donc voilà, on fait attention. On fait attention à soi. On essaye de mais ça va. Non. Vraiment, le spectacle, c'est surtout pas un spectacle sur les 50 ans.
Non.
C'est sur moi aujourd'hui. Et puis 50-50, c'est aussi mes enfants qui sont moitié-moitié. Ils sont moitié, comme je donne dans le film, ils sont moitié arabes par leur mère. Dans le spectacle, ils sont à moitié arabes à cause de leur mère. Pardon, grâce à leur mère. On l'a fait exprès, bien sûr, mais ils ont deux cultures, donc c'est 50-50 de ce côté-là. Notre couple, à ma femme, était une biculture, donc c'est 50-50 de tous les côtés, quoi. C'est vraiment ça.
Est-ce qu'il y a une scène comme ça, de one-man show, aussi en Angleterre, très, très prolixe, Edouard Saint-Aubin? Est-ce que vous êtes familier de ce registre-là?
Non, je reconnais pas, pardon.
Vous en connaissez? Parce qu'aux États-Unis, il y a une grande scène, mais en Angleterre?
Je ne sais pas. Ni les Américains, ni les Anglais, vraiment, je les connais bien. Je ne suis pas un friand de ça, même si je sais qu'ils ont beaucoup J'en ai vu beaucoup au Canada, en Amérique du Nord. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi, peut-être moins en Angleterre.
En Angleterre, je sais pas, j'ai l'impression que la scène est très développée.
Il y a un humour anglais.
On va le vérifier tout à l'heure avec Grégoire Saint-Aubin.
Qui est celui qu'on adore tous presque, parce que ce qui est très très fort. Maintenant, je connais pas la... Mais c'est pas la même façon, l'humour nord-américain. Nous, on a tout à coup... une génération d'humoristes, on a explosé, on est devenu des stars de rock dans des grosses salles qui font 5000, 6000 personnes. C'est un petit peu plus compliqué maintenant, mais parce qu'on est nombreux, on l'a dit. Mais ça existe pas vraiment. Il y en a peut-être un ou deux qui font ça de
aux
États-Unis.
Ouais.
Aux États-Unis, mais c'est vraiment. Salles, ouais. D'ailleurs, c'est le petit micro parce qu'en fait, ils prennent un micro dans les mains aussi parfois parce qu'ils sont moins acteurs que nous on l'est, donc ça comble une main où il y a moins de moyens parce que jouer avec un micro dans une main dans un Zénith, il y a un moment, même Gad avait essayé, puis à un moment donné, il a posé le micro parce que il faut se servir de ses mains aussi. Le petit verre d'eau, ça me fait toujours rire. Petit verre d'eau, mais moi, je joue 2 heures de spectacle, il y a pas un moment où il y a un verre d'eau ou une once d'eau sur scène ou de quoi que ce soit. Enfin, puis quoi encore?
Ouais, non, ça fait très récital classique.
Mais ça fait, c'est presque un genre. Alors pourquoi pas? Hein, je critique pas le genre parce qu'il y a des gens très très drôles. Mais bon, le petit tabouret, le micro, le fil et le. C'est comme à l'opéra, il y a la fausse d'orchestre. Il faut que ça soit, c'est dessiné quoi.
Vous n'avez jamais été tenté comme les autres, justement, certains de tout rejouer, de redémarrer à zéro, mais aux États-Unis? Dans ce registre-là.
Très honnêtement, pourquoi faire? Je peut-être plus
et
jeune.
Et d'aller piquer les idées des autres.
Non, mais je rentrerai pas dans ce débat-là. Je rentrerai pas dans ce débat-là. Mais vous savez, on peut sans en faire exprès aussi voler des idées, mais avoir la même idée que quelqu'un d'autre. J'ai joué beaucoup au Canada.
Ouais.
J'ai eu la chance de tourner en Angleterre. C'était mon Amérique à moi. Maintenant, aller faire de l'humour, aller conquérir à tout prix un autre pays, c'est pas forcément mon humeur. D'abord parce que je suis un père de famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai plus tellement...
Ah mais ça a vraiment changé les choses pour vous alors.
Oui, parce que j'ai plus le temps d'être tout seul, d'aller faire ça, de dire allez, bye bye, je pars 3 mois aux États-Unis pour... Même quand il s'agit, là, on va aller jouer au Canada, il s'agit d'aller jouer 1 semaine, 2 semaines, je me dis, attends, là, quand est-ce que j'abandonne mes enfants? Attention, j'ai un film avant, je vais partir 3 mois. C'est très compliqué, je leur dois plus qu'à mon public, je suis désolé, mais je leur dois plus. Et donc voilà, et puis déjà, continuer à conquérir mon public, public français qui m'aime ici, c'est assez dur. Alors si je dois leur dire, attendez, je vais voir les cousins de l'autre côté, c'est très bien pour ceux qui le font, mais... Et puis c'est pas recommencer à zéro. Quand on a de l'argent ici... Quand on a une notoriété ici, chez nous, partir à l'étranger, c'est pas recommencer à zéro. Hein.
Ouais, c'est pas la même chose.
On traverse pas l'océan comme un émigré pour revenir dans un pays où là, on commence tout à zéro. Non, c'est pas commencer à zéro.
Juste une question par rapport à votre statut et au regard que les gens posent sur vous. Le film « Tout le monde debout » a vraiment changé. C'était un gros succès public, déjà.
Oui.
Plus de 2 millions de...
2,5 millions.
Oui, 2,5 millions de spectateurs, oui. Super. Succès critique aussi. Ou dans certains papiers, j'avais l'impression que les gens étaient en train de vous découvrir véritablement. Est-ce que ça a changé le regard de la profession sur vous et des rôles que l'on vous propose maintenant? Parce que vous écrivez vos propres rôles au cinéma. Je sais que vous nous l'avez dit tout à l'heure pendant la chanson, vous avez mis le mot fin sur le prochain film. Ouais. Mais est-ce que ça a changé ce qu'on vous propose, Franck Dubosc?
Ça a changé le regard, oui. Enfin, le regard, il a évolué au fil des années. Ça n'a pas été aussi net. Après, tout le monde debout. Il y a des gens qui s'en doutaient. Il y a des gens qui... et puis c'est normal parce que c'est la première fois que je suis vraiment moi au cinéma, que je fais le film est vraiment il me ressemble, oui, ouais. Sans être avec des co-auteurs. Alors, j'ai écrit d'autres films, j'ai écrit Camping 1, 2, 3, Disco, tout ça, j'ai co-écrit. Mais maintenant, être seul, livré à moi-même devant une feuille de papier, ça ne peut être que ça me ressemble, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est donc le effectivement peut-être que des gens se sont dit ah c'est ça Dubosc, alors tant mieux, hein, ça passe ou ça casse, hein, ça pouvait leur déplaire. Maintenant je me bats pas en disant attendez, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Il m'a fallu qui je suis vraiment, c'est pas ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai été tout au long. Et puis je dirais Patrick Chirac
Chirac, c'était dans Camping, hein, c'est pour Edouard Saint-Aubin, voilà, un personnage
joué au cinéma et un peu pas très comment dire, un petit maillot de bain serré,
c'est tout,
voilà, pas très recommandable. Et ben ce personnage là finalement il a aidé à Tout le monde debout aussi. Sans lui ce que je suis aujourd'hui n'existerait pas. Et j'ai toujours aussi été, même quand je me promenais à moitié nu sur la plage, ou parfois nu, même dans certains des... Enfin, nu, le cul à l'air, dans certains films, j'ai malgré tout toujours été celui que je suis aujourd'hui. Mais celui que je suis aujourd'hui n'aurait peut-être pas existé, n'aurait pas pu naître au grand jour sans ces personnages-là. Donc tant mieux, voilà. Et je parle tellement que je ne sais même plus quelle était la question, mais c'est important.
Non, sur le regard, le regard qui a changé.
Après, ouais. Le regard. Oui, et dans les rôles qu'on me propose, on me propose beaucoup de choses maintenant.
Hors comédie ou pas? Toujours pas.
Plus comédie.
Toujours comédie.
C'est les comédies qui ont changé.
Ah bah ça oui.
Par contre, on me propose aussi des comédies plus douces, plus tendres, plus... Et ça tombe bien, j'aime bien et j'aime mieux ça. Peut-être moins rentre dedans, moins on me propose plus ça. Et voilà, mais je suis pas à la recherche de... Je suis à la recherche de bons films, mais pas de forcément de films comme ça, très... J'avais fait Les Têtes de l'Emploi, qui était malgré tout...
Qui était super, c'est pour ça qu'on vous avait invité. Ouais. Une comédie très acide.
Qui était une comédie acide aussi.
Sociale.
Voilà.
Qui préfigurait d'ailleurs toutes les comédies sociales qui apparaissent depuis quelques temps, comme Rebelle, comme...
Exactement.
C'est exactement ça, vraiment.
Oui, l'histoire de gens qui travaillent
de
à la NPE, qui se retrouvent eux-mêmes au chômage, s'il n'y a plus assez de chômeurs. Et oui, c'était un beau film avec Elsa Silverstein, François-Xavier de Maison. Et voilà, donc non, il y a des beaux films comme ça qu'on me propose. Alors attention, moi j'ai ce souci qui est un souci de luxe, entre guillemets, c'est que quand je fais un film, si je fais moins de 500 000 entrées, c'est un bide.
C'est un bide, ouais.
Là où pour d'autres, c'est un succès.
C'est énorme. 500 000 pour un film aujourd'hui, c'est énorme.
Voilà, alors moi
en fait,
je suis voué au succès et l'insuccès me... Je le prends sur la tête, quoi. Parce que on se dit, ah moi, t'as vu Dubosc, ouf, là. Même All Inclusive, qui n'est pas le meilleur film que j'ai fait, même qu'importe, qui fait plus de 800 000 entrées.
C'est un échec.
C'est un échec. Ouais. Et je le comprends. Hein, je me souviens, il y avait deux films l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui était un gros succès et on avait le même nombre d'entrées. Mais voilà. Après, c'est une question de combien coûte le film, je suis d'accord.
Et donc, mais ça, il est distribué. Enfin, c'est tout aussi la différence.
Mais je suis voué à... Alors, dans les choix, c'est difficile. Dans les choix, c'est difficile parce que parfois, il y a des films que j'aimerais faire, mais je sais que c'est peut-être pour rencontrer un public moins large. Et est-ce qu'on va m'en vouloir voilà.
Est-ce que vous pouvez vous le permettre, justement?
Est-ce que je peux me le permettre? Et j'ai envie de plus en plus de me le permettre.
Dernière question, ça va mieux avec les gilets jaunes?
Ah oui, ça va mieux. Oui, ça va... Non, franchement, bon, ça va mieux. Oui.
Très
oui,
bien, parfait. Oui. Vous restez avec nous. Tout de suite, il va être question de votre algorithme avec Marion Guilbeault.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Marion?
Vous avez rendez-vous?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits, Phil Collins, Sketch Jared.
Le nouveau rendez-vous?
Vous aimez Mozart?
Oui. C'est lequel?
Le dernier.
Sur France Inter.
Opération Algorithme, Marion Guilbeault, on redéfinit le dispositif?
Votre algorithme musical, Franck Dubos, c'est-à-dire je vais fouiller dans votre ADN ce qui vous constitue musicalement depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui et je vais vous proposer quelque chose de nouveau, de différent à écouter. Alors votre algorithme musical, vous, il commence sur une piste de danse avec des dalles lumineuses au sol, une boule à facettes, une veste lamée or, un brushing, tout le monde les bras en l'air avec ça.
She's crazy like...
C'est bien sûr Bonne M, Daddy Cool. C'est extrait de la bande originale de Disco en 2008 de Fabien Antoniente. Vous jouiez Didier Grindorge, dit Didier Travolta. Moi, j'ai remarqué dans votre filmographie, il y a beaucoup de rôles assez physiques. Là, il y avait un rôle de danseur.
Ouais.
Et je me demandais quel genre de musique vous écoutiez pour danser.
Quand j'étais jeune?
Oui.
Ça.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, je danse moins aujourd'hui. Je vais m'y remettre pour mon prochain film.
Ah.
On en parlera pas plus, mais je danse plus beaucoup. Moi, non, maintenant, je danse plus beaucoup. J'adore ça, hein. Mais peut-être que je sais pas. J'ai un peu honte, j'ai un peu de pudeur. C'est-à-dire, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on a été un petit peu bête sur les pistes.
Ah bon, vous trouvez bête quand vous vous regardez dans Disco?
Non, parce que c'est un film et puis parce que non, j'ai aimé ça, terriblement danser les concours de danse, tout ça. Ouais, maintenant c'est fatigant la danse. Hein.
Vous en faisiez des concours de danse?
Oui, quand j'étais jeune, oui, je faisais des concours de danse. Oui.
Ah bon?
Oui, comme dans Disco. Le Disco, c'est parti de oui, dans les boîtes de nuit, on faisait des concours comme dans La Fièvre du Samedi Soir. Et voilà, j'ai jamais gagné.
Alors je poursuis avec une pépite du rap français, parce que oui, Franck Dubosc, vous n'aimez pas que Daniel Guichard et les chansons qui parlent de vieux. Non, vous savez aussi vous adresser aux jeunes, la preuve.
Hey, salut Cabochard, c'est moi, Francky, ton ami, ton frérot, Kiki, Kikito, yeah, oh. Aujourd'hui je change de look, je deviens MC Dubouk. Tu connais la fontaine, Franck de son prénom. Ma casquette, ah non je l'ai, c'est vrai, je l'ai mis sur le côté. Qu'on croit que j'avance quand je recule. Excuse dans ma tête tout ce que mûre là. Bon, où j'en ai? Ah oui, le corbeau et le narreux.
MC Dubouk, vous avez un sacré flow, hein.
Franck, c'est pas mal en plus.
C'est vrai, j'ai un pignouf de corbac sur un truc planqué, ce corps est dans la tronche à un coulant baraqué. Ouais.
C'est Booba et Orelsan qui vont être jaloux, je le sens. Alors, vous l'avez fait dans des films, hein, chanté, mais est-ce que ça vous a un jour tenté réellement d'enregistrer une chanson ?
Ah, j'adorerais ça. J'adorerais ça.
Ouais, qu'est-ce qui manque ?
Mais je chante très très mal. Je chante très... Oh là là, je chante
non,
très
là,
très
c'est
mal.
Parfait.
Et d'ailleurs, sur scène, il y a un moment où je chante, mais pas très bien, mais je vous avoue...
Vous le faites exprès de chanter pas
alors,
très bien.
Alors, je vais vous dire. Alors, de plus en plus, c'est de mieux en mieux, parce que je m'y entraîne, mais... Chaque fois que je tant mieux si les gens rient quand j'ai ce moment où je chante sur scène parce que c'est prévu pour.
Ouais.
Mais je ne vous cache pas que secrètement, j'essaie d'être au mieux possible. Je me fais plaisir, je suis sur une scène, j'ai devant moi 3000 ou je sais pas combien de personnes, et là tout à coup dans ma tête je suis Patrick Bruel. C'est-à-dire que j'ai une guitare, je sais pas jouer de la guitare non plus, je joue 3 notes, je chante et à ce moment-là, je suis dans ma bulle, les gens je les laisse rire de leur côté et se moquer de moi, mais moi dans ma tête je fais ça au
vous
premier degré. Je suis Patrick Bruel et je suis au premier degré dans ma tête, et tant mieux si eux ils rient, eux ils font leur partition et moi je fais la mienne de mon côté.
Mais si vous deviez enregistrer quelque chose, ça serait dans quel domaine en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez chanter? Elise Moon, on sait très bien, lui, ce
oui,
qu'il
aime. Oui, la bossa, tout ça.
La bossa, tout ça.
Et vous? Si je devais chanter, je pense que je j'aimerais chanter des chansons d'amour ou des... Il y a plein de choses que j'aime à écouter. Il y a des choses que j'aime à écouter que je ne chanterai pas. Mais je ne sais pas ce que je chanterais. Des chansons d'amour, oui. Oui, des chansons à l'Aznavour, voilà.
Alors, dans votre ADN musical, on trouve aussi la soul de Luther Vandross, des chansons de François Feldman, Daniel Guichard, Danny Briand, pardon, Aznavour, Michel Fugain, Claude Barzotti, tout Radio Nostalgie. Difficile de leur trouver des héritiers aujourd'hui. Alors, vous m'en voudrez pas, mais votre algorithme, du coup, il a fait un petit pas de côté avec un jeune Marseillais qui essaie, lui, avec un bouzouki, un ordi, un peu de folie, de concilier ses racines familiales grecques avec les sons d'aujourd'hui. Lui aussi, il fait 50-50.
Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes doigts. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur, demain ce sera pareil, c'est un opéra.
Il s'appelle Johan Papa Constantino, la chanson s'appelle Je sais pas, c'est extrait de son premier album Contre-jour, c'est le blues du Repetico qui rencontre l'autotune du rap. C'est les chansons d'amour de Johan Papa Constantino, c'est un plasticien marseillais, il fait aussi de la peinture, des sculptures. Il est exilé à Paris, c'est une des voies à suivre en 2019. Ça pourrait être aussi peut-être la bande originale du prochain Camping 4 à Mykonos par exemple. Est-ce que ça vous intéresse?
C'est très beau, je trouve que ceux qui ont réussi à allier deux genres, que ce soit là il y a deux cultures,
oui,
mais aussi deux genres, là il a le côté grec, le côté, mais le rap et le slow, le rap et le rock, la chanson, le rail et le rock, tous ceux qui ont associé des genres ont souvent réussi. C'est assez beau. Moi, j'aime le rap quand ils reprennent des vieilles chansons ou ça remet toujours en valeur la vieille chanson qui est plus d'actualité, qu'on n'a plus envie d'écouter, mais comme ça. Je trouve que c'est des coups réussis, ça, à chaque fois.
Laissez valider par Franck Dubosc, Johan Papa Constantino.
J'ai d'ailleurs dans mon prochain film sûrement une musique que je voudrais mettre qui est un tango manouche. Qui est justement du tango mais revisité aujourd'hui et c'est formidable.
Vous allez être danseur de tango dans le prochain film?
Ah oui, je crois que j'ai pris la piste.
50-50 au Palais des Sports à Paris à partir de demain jusqu'au 14 avril. Le film Tout le monde debout est disponible en DVD. Vous restez avec nous. On va parler roman tout de suite avec Édouard Saint-Aubin. Tout de suite, ou plutôt après, elle est too much, le doyon.
been pacing up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sir, family, but me, yes, I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. Must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on, sometimes just like the rest of us.
Rendezvous.
France Inter.
We've taken Aqaba.
Sir?
I'll have another of your very refreshing martinis. Bring me some salmon tartare followed by some steak tartare. Tartare tartare. Spicy, very spicy. And your wine list.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Allez, juste un extrait de Patrick Melrose, la série qui a débarqué sur Canal+ lundi dernier, que vous avez créé, non pas la série, mais les romans avec ce personnage, Édouard Saint-Aubin, un héros qui vous ressemble, élevé comme vous dans une famille noble, abusé par son père, enfant, devenu toxicomane. Vous l'aviez vraiment conçu comme un double littéraire au départ ?
Certainement. Mais bien sûr, c'est quelqu'un que j'ai créé. Alors, il y a déjà un éloignement et j'ai inventé beaucoup de choses parce que j'étais pas là au dîner de mes parents en train de prendre des notes pendant leur conversation. Alors il faut inventer et aussi compresser. Les romans se passent sur un jour dans un lieu.
Exactement.
Alors j'ai compresser 10 ans d'enfance dans un jour.
Et dans un
c'est
lieu.
Déjà artificiel, c'est déjà entièrement différent de la vie.
On va parler du nouveau roman qui lui bascule véritablement du domaine de la fiction. Mais je voulais juste savoir, la littérature, ça commence à quel âge pour vous ? Vous avez commencé à écrire quand ?
À 12 ans, j'ai essayé d'écrire un roman à 12 ans. J'ai arrêté à la page 40. C'est un genre de plafond pour moi. Chaque fois que je démarrais un roman, j'arrêtais à la page 40. Jusqu'à peu importe que j'ai fini à 28 ans.
Et c'était à l'époque, déjà à 12 ans, des romans qui concernaient ce que vous viviez dans le cadre familial ?
Oui. J'ai retrouvé ce roman que j'ai écrit à 12 ans et je l'ai brûlé pour être sûr. Parce que Kafka, par exemple, il a dit brûler tout mon œuvre quand je suis mort, mais il l'a pas brûlé lui-même et c'est pour ça que nous avons Kafka. Mais moi, je l'ai brûlé moi-même. J'ai pas confié ce métier à quelqu'un d'autre.
Par rapport à Patrick Melrose, justement, je me suis demandé quelle place l'héroïne avait eu dans votre vie.
L'héroïne.
Ouais.
J'en ai pris de depuis 16 ans jusqu'à 28 ans, oui, voilà. Ça m'a permis de ne pas me suicider. C'était très utile. Mais à un certain point, c'était inconvénient.
Il n'y a pas d'héroïne, mais il y a autre chose quand même dans le nouveau roman que vous publiez chez Grasset. On en vient à ce roman, Dunbar et ses filles, très drôle, acide, une comédie de mœurs, pas autobiographique. C'est l'histoire d'un vieil homme très riche, un des plus riches au monde, qui se voit voler son empire financier par ses deux filles qui l'ont envoyé dans un foyer pour personnes âgées. Alors pour cela, elles ont mandaté leur amant, parce qu'elles se partagent leur amant, le docteur Bob, qui a même encaissé 6,5 millions de dollars, j'adore le « et demi », pour certifier que Dunbar, 80 ans, est paranoïaque, incapable de diriger un des empires commerciaux, vous écrivez, les plus sophistiqués du monde. Bob a... En fait, il y a trois filles, c'est un peu comme dans Le Roi Lear. La dernière, issue d'un mariage, est la plus fidèle et c'est peut-être celle qui va pouvoir améliorer son sort. Alors comment Dunbar va pouvoir contrer les deux premières filles? Première chose, il va devoir s'évader de la maison de retraite et c'est pas évident car il a pour complice un vieil acteur un peu dingue et pas mal alcoolo. C'est quoi cette fois-ci le point déclencheur de ce roman aussi fantaisiste, Édouard Saint-Aubin?
C'est le Roi Lear de Shakespeare qui a inspiré ce roman. Mais dans un roman, il faut avoir, ou dans le genre de roman que j'essaie d'écrire, une psychologie qui est plus réaliste. Alors les deux filles aînées ont une mère différente que la jeune fille, parce que Florence. C'est pas clair dans Florence, oui. Dans la pièce, c'est pas clair pourquoi il y aurait deux psychopathes et puis un ange. On sait pas pourquoi. Freud a demandé qui est le... la reine Léa. J'ai décidé qu'il y en avait deux. Et c'est l'explication de l'énorme différence entre ces deux. Et les filles aînées essayent d'avoir l'amour de leur père en faisant comme lui, en étant féroce et orgueilleux. Comme Léa, c'est un voyage vers la connaissance de soi.
De soi et du monde.
Et du monde. Et au milieu, il devient un peu un gilet jaune, comme le roi Léa qui voit la malheur dans son royaume. Et il pense, mais c'est insupportable, on doit donner le superflu aux malheureux. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Alors, Dunbar a une réalisation équivalente dans son voyage.
Vous avez un regard justement sur ce qui se passe en France, vous, Édouard Saint-Aubin, puisque vous venez de citer les Gilets jaunes, alors même que je n'avais même pas posé la question. Hein. Vous êtes troublé par...
Ce qui se passe en Angleterre est tellement troublant, c'est difficile de détacher le regard. Et de temps en temps, le président Trump nous force à regarder vers l'Amérique. Mais bien sûr, je suis conscient des Gilets jaunes, oui. Mais le désastre du Brexit est très... monopoliste.
Oui, monopoliste, toute l'attention que vous pouvez avoir de oui. L'autre côté de...
C'est un genre de suicide national, alors je suis horrifié. Je veux devenir un citoyen français,
Welcome.
Merci.
À ce point-là, véritablement.
Non, je déteste le Brexit, oui. C'est vraiment... né du ressentiment et de la rage. Mais contre l'élite mondiale dont Dunbar fait part, c'est l'équivalent d'un roi. C'est pas un roi en temps moderne, c'est un des
financiers les plus puissants. Voilà.
C'est un des ultra-riches mondiales qui a une influence politique sur plusieurs pays, plusieurs continents, comme Dunbar. Et c'est contre cette inégalité que beaucoup de gens ont voté en Angleterre. Alors, il y a un lien entre les Gilets jaunes et le Brexit et Trump, il y a partout. Mais ce n'est pas la solution. C'est le Brexit et Trump, je ne sais pas avec les Gilets jaunes, je ne peux pas parler de vote.
Et quand vous êtes en Angleterre, vous participez activement à une prise de parole contre le Brexit, par exemple? C'est un rôle que vous assumez là-bas?
Un peu, oui. J'ai Quand je fais un, je parle seulement au public quand je fais un lancement. Alors quand j'ai fait le lancement de Dunbar en Angleterre, j'ai beaucoup insulté David Cameron et, et voilà. Je viens de signer le petition pour revoquer l'article 50, etc.
Vous pensez que c'est possible?
On est à presque 6 millions aujourd'hui, mais il y a 17 millions qui ont voté pour partir. Alors, c'est seulement peut-être à 10 que le gouvernement va en prendre conscience. Oui.
Donc, ça pourrait arriver.
Ça pourrait arriver, oui. J'ai toujours un peu d'espoir, oui. Sinon, c'est...
C'est foutu.
Je vais chanter la Marseillaise.
Vous regardez de ce côté, de l'autre côté, là où vous avez été un acteur, de voir ce qui s'est passé avec le Brexit, vous?
J'écoute le c'est presque plus intéressant d'écouter un Anglais qui le vit au travers des mots, au travers de la souffrance que ça a l'air d'être quand je l'entends, ouais. Que de le voir à la télévision, parce que nous on voit effectivement, comme il disait, on voit un petit peu midi à sa porte quelque part. On c'est difficile de nous, on regarde ce qui se passe en France et puis on a du mal à tourner la tête vers l'Angleterre. Oui. Les Anglais ont du mal, et c'est peut-être le problème d'ailleurs, c'est que tout le monde a du mal à tourner la tête vers l'un vers l'autre, parce que chacun voit midi à sa porte sans, en se disant qu'on peut pas s'entraider tous, et il faudrait. Mais je suis un petit peu aussi là. Je me suis fait la même réflexion de me dire, quand je vois les soucis qu'on a nous ici, de me dire, mais eux en ont des peut-être plus importants encore, parce qu'ils vont perdre beaucoup. C'est, oui, comme vous le dites, c'est un suicide national. Donc, nous, on essaie de là où on essaie, tout le monde essaie de que ce soit plutôt une naissance nationale. Vous êtes dans un suicide. Alors bon, c'est tout ça est un petit peu voilà. C'est et puis il y a d'autres pays dans le monde encore qui ont encore d'autres problèmes. Et c'est vrai que chacun a... celui-là, c'en est important. C'en est important. Mais bon, les Français anglais reviennent vivre chez nous.
Oui, d'accord.
Ils reviennent. Donc c'est un avantage pour revendre nos maisons. Voilà, tout ça, faut profiter. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui reviennent, qui s'en vont. De l'Angleterre. J'adore l'Angleterre, moi. J'adore. Oui. J'irai pas y vivre parce que je suis français vraiment et je veux.
Mais vous
y
avez vécu, vous y avez travaillé.
Oui, ouais. J'ai vécu, j'ai travaillé. Mais j'adore Londres, j'adore l'Angleterre, j'adore les Anglais. Voilà. Et ça, c'est même après, si le Brexit fonctionnait ou quoi, je les aimerais toujours autant. Maintenant, voilà, ça sera autre chose. Mais moi, je suis en touriste quand je vais là-bas. Donc forcément, je ne verrai pas la même chose, je n'aurai pas le même... Mais y vivre... En tout cas, si l'idée m'était passée dans la tête d'aller y vivre, là, en ce moment...
Ça serait pas le moment.
Est-ce qu'en Angleterre, justement, la dimension métaphorique qu'il peut y avoir avec Dunbar a bien été comprise, d'après vous, Edouard Saint-Aubin?
Assez bien, mais on était très pris par le lien avec Shakespeare, qui et pas avec le lien avec la politique, contemporaine, oui. Mais c'est là aussi, c'est aussi ça qui a été apprécié.
Peut-être une dernière question, puisque tout à l'heure on parlait de cette série que vous n'avez pas initiée, vous en êtes à l'origine du point de vue des romans. Passer à la réalisation aujourd'hui, ce serait quelque chose, vous qui avez donc travaillé en équipe avec le reste de la production, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser?
Oui, beaucoup.
Ah, ça y est. L'écrivain va passer réalisateur.
Ça m'a inspiré beaucoup et j'aimerais travailler ou... sur Dunbar pour le convertir en film, ou écrire quelque chose directement pour le cinéma.
Mais là, c'est vrai qu'on a des personnages tellement outranciers qu'ils fonctionneraient parfaitement pour un film.
Oui, je crois.
Les deux sœurs,
c'est Racine.
Nymphomane avec leur amour qu'elles se partagent, c'est quelque chose.
Et c'est raciné dans le drame. Je crois qu'on sent ça quand on lit le roman. C'est parce que ça commence avec une pièce et puis ça devient un roman. C'est naturel que ça devienne un film.
Et plus tard, une série. Je vois d'abord la filiation.
Vous traduisez? Vous traduisez vous-même? Vous écrivez en anglais, j'imagine?
En anglais.
Et vous traduisez vous-même?
Non, je ne suis pas capable de traduire. Non, c'est très bien, très très bien traduit par David Fuchenbach. C'est merveilleux.
Dunbar et ses filles chez Grasset et Patrick Melrose. La série a débarqué sur Canal+ depuis hier. Merci à vous deux. Merci, merci. Franck Dubosc. Merci, merci Edouard Saint-Aubin. Le NRV première partie, vous l'avez compris, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec un autre dossier, avec ça.
Les Hutus tuent les Tutsis et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide.
Rwanda, 25 ans après, quels enjeux pour la commémoration ? La France est-elle coupable ou complice ? Le rendez-vous est pris ? Alors à tout de suite.